Salut à toi et bienvenue sur ce podcast. Je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr et c'est le tout premier épisode de podcast du blog et c'est également le tout premier podcast que je fais tout court. Donc merci pour votre indulgence pour le premier. Le but c'était plus d'essayer de le sortir assez rapidement même si je ne suis pas encore super douée à ça, mais avec l'idée de l'améliorer au fur et à mesure. Du coup, j'ai décidé d'ajouter de l'audio sur le blog. Je me suis dit que ce sera un moyen pour toi de pouvoir écouter ça bah, quand tu es dans le métro ou dans n'importe quel autre transport, quand tu fais la cuisine, en attendant chez le médecin et en fait à peu près à tout moment qui peut être en temps mort. C'est vrai que la lecture, c'est pas toujours le moyen. On n'a pas forcément toujours le temps de lire mes putains d'articles de 2000 mots. Bien qu'ils en vaillent grandement la peine. Mais du coup, voilà, donc l'audio, ça permet de rajouter un autre moyen. Donc j'espère que ce sera un truc que tu utiliseras et qui te fait plaisir. Alors, donc dans ce premier épisode du podcast, on va parler des entreprises comment et des entreprises pourquoi. Ok, donc aujourd'hui, on parle des entreprises comment et des entreprises pourquoi. Donc en fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Liberté et compagnie, quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises », coécrit par Isaac Getz et Brian M. Carney. Et en fait, l'idée principale... un des concepts, j'allais dire c'est l'idée principale, mais non, en fait, c'est un des concepts qu'il y a dans le livre, qu'on trouve dans le premier chapitre du livre. C'est justement cette distinction entre les entreprises comment et les entreprises pourquoi. Et en gros, pour te dresser le portrait, c'est un peu présenté comme les méchants contre les gentils. Donc les entreprises comment, c'est les méchants. Et les entreprises pourquoi, oui, c'est les gentils. Donc l'idée principale là derrière, c'est de dire que les entreprises comment, elles disent aux salariés comment faire leur travail. Et les entreprises pourquoi, elles leur disent... Tu fais ton travail comme tu veux, tant que ça respecte le pourquoi de ton travail, qui peut varier selon les entreprises, mais globalement, ça correspond à la vision de l'entreprise. Et en l'occurrence, les entreprises pourquoi, c'est notamment les entreprises libérées, qui, comme tu le sais déjà sûrement, c'est un des sujets que je traite sur le blog Les Nouveaux Travailleurs. Alors, donc une entreprise comment, c'est quoi ? Déjà, il y a on va dire que c'est orienté autour d'une conviction principale qui est que les salariés ne veulent pas travailler, donc il faut les contrôler, il faut leur dire comment faire. Et là, en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce que les petits bonhommes, ils se disent ça, des petits salariés Je suis en train de me faire mon petit kiff toute seule. Donc en fait, apparemment, ça viendrait de la révolution industrielle, donc 18e siècle à peu près. Non, pas à peu près, c'est 18e siècle. Où en gros, à cette époque, des sociétés ont cherché à embaucher et comme elles avaient besoin de monde, elles ont embauché des personnes, des ouvriers issus de milieux ruraux. Et ces ouvriers, un certain nombre d'entre eux étaient illettrés, ce qui a probablement freiné... les a probablement freinés dans certaines tâches ou dans leur apprentissage. Et du coup, les managers de l'époque se sont dit « Ouais, en fait, les mecs, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie d'apprendre. » Et donc, ils se sont dit « qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les commander, les contrôler, je vais leur dire comment faire. Et puis comme ça, tout se passe bien, on fait de la croissance. Et puis s'ils ne font pas ce que je dis, je les sanctionne. » Et en fait, cette croyance qui est venue de ce moment-là, comme le mode de fonctionnement des entreprises comment, a perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés modernes, dans laquelle la majorité des entreprises sont des entreprises comment. Alors, en gros, c'est quoi le fonctionnement d'une entreprise comment ? Il y a, on va dire, trois grosses idées. La première, c'est que... Bon, alors déjà, la grosse première idée que j'avais même pas compté, c'est que c'est basé sur la hiérarchie. C'est organisé de manière hiérarchique, avec des managers et des salariés qui écoutent les managers. Et du coup, en fait, la première idée que je voulais dire, c'est la hiérarchie qui décide des problèmes à résoudre. C'est-à-dire que les managers, considèrent que leur rôle, c'est de résoudre des problèmes. Enfin, ça, c'est en partie vrai. Mais donc, le manager va se dire, bon, voilà, moi, j'ai identifié tel problème et je considère que c'est celui-là qu'il faut traiter. Deuxième point, c'est la hiérarchie, donc ce même manager qui impose la solution. Donc, dans un premier temps, il choisit le problème. Ensuite, il dit, voilà, moi, je sais comment on va faire. Voilà comment on va résoudre le problème. Et toi, petit padawan, petit salarié, tu vas faire ce que je te dis et tu vas résoudre le problème comme moi, je l'ai imaginé. Mais moi, je fais rien et je te laisse avec les outils que, et les conditions que j'ai déterminées, alors que c'est pas moi qui vais réaliser le travail. Et le troisième point, c'est que on a tendance, dans les entreprises communes, à juger les salariés sur les mauvais éléments. C'est-à-dire qu'au lieu de les juger sur est-ce que le travail est bien fait, est-ce que le client est satisfait, on juge les heures de présence et le respect des règles établies auparavant. Sachant que ces règles, parfois elles sont pertinentes et parfois elles ne le sont plus, mais on continue de les appliquer quand même. Voilà, donc pour enfoncer le clou de pourquoi les entreprises communes et les méchants, trois conséquences néfastes aux entreprises communes. Conséquence numéro une, les managers mettent des obstacles au travail puisque en n'écoutant pas les besoins des salariés pour réaliser correctement leur travail, on leur crée des obstacles, ce qui fait baisser la productivité. Deuxième conséquence néfaste, la baisse d'engagement. Donc, quand on ne consulte pas l'avis des salariés et qu'on ne leur demande pas réellement leur avis, assez simplement et assez limpidement, on n'obtient pas leur adhésion sincère quand on propose une solution. Et donc, un grand problème qui se passe dans les entreprises communes, c'est que en fait, les personnes, même si elles n'adhèrent pas, elles peuvent très bien dire oui, faire profil bas, en gros, dire je vais le faire, je trouve ça cool et tout. Mais derrière, pas du tout penser ça et peut-être même râler, dénigrer les idées, tout ça en douce et donc finalement ne pas être productif malgré tout, même si on a fait croire qu'on était d'accord avec l'idée. Et troisième conséquence néfaste des entreprises communes, l'impossibilité de changer les règles. En gros, la structure hiérarchique rend très difficile le changement des règles puisqu'on a beaucoup de strates. Et beaucoup autant de strates dans lesquelles on peut ne pas avoir envie de changer ses règles. Donc en fait, les entreprises communes, au début, elles avaient de bonnes raisons, enfin de bonnes raisons. En tout cas, elles ont existé, on va dire ça. Non, en gros, les entreprises communes, elles ont été très efficaces au moment de la révolution industrielle puisque grâce à cette organisation, elles ont engendré de bons résultats, elles ont créé de la croissance et c'était ça qu'on attendait des entreprises à ce moment-là. Le problème de cette organisation, c'est que ça a été un peu au sacrifice de l'humain. Donc majoritairement, il y a eu un gros prix humain à payer et il y a une preuve qui a été apportée par l'Institut de sondage américain Gallup je suis en train de chercher la date, je crois que c'est 2013. En tout cas, c'est plus de 2010, on va dire. Je l'ai plus sous les yeux. Donc, ce chiffre est super important. L'Institut de sondage américain Gallup a révélé que seuls 11% des salariés sont engagés dans leur travail. Et après, il rajoute que 61% ne sont pas engagés. Et le pire du pire, c'est que 28% sont activement désengagés. C'est un peu ce que je disais. Juste avant, le fait de dénigrer ce qui se passe, d'essayer de dénigrer les décisions des managers, d'essayer de presque mettre des bâtons dans les roues ou d'agir pour que ça ne se fasse pas et tout ça. Et donc, c'est pour cette raison que les entreprises, pourquoi ont commencé à exister? Il y a des dirigeants qui se sont dit, voilà, nous, on n'a pas envie de faire un sacrifice humain. Et donc, on va créer une entreprise qui fonctionne différemment, de par sa philosophie, par ses valeurs, par ses convictions, par son mode de fonctionnement qui découle de toute cette belle énumération que je viens de faire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise pourquoi? Alors, la conviction principale de l'entreprise pourquoi n'est bien sûr pas la même que celle des entreprises comment. La conviction principale de l'entreprise pourquoi, c'est ce n'est pas le patron qui détient les meilleures idées, mais l'ensemble des salariés. Donc en fait, les gens qui créent ce genre d'entreprise disent, c'est pas parce que je suis patron ou que je suis haut placé dans la hiérarchie que j'ai forcément raison et que j'ai forcément les meilleures idées. Et donc, on va pas forcément appliquer ce que moi je pense. En fait, moi, je fais partie du tout. Et dans ce tout, chaque voix se vaut. Et donc, on va consulter tout le monde, on va prendre en compte les avis de tout le monde et choisir les problèmes à résoudre et leurs solutions de cette manière-là. Donc maintenant, comment fonctionne l'entreprise pourquoi? Donc à l'inverse de l'entreprise comment qui, très concrètement, dit aux salariés comment faire en mettant en place des règles et des processus, l'entreprise pourquoi, elle demande aux salariés de se rappeler pourquoi ils font leur travail et de réfléchir intelligemment à la solution qui correspond à ce pourquoi. Et donc, si enfin, en gros, le pourquoi des entreprises, c'est leur vision. Donc par exemple, une entreprise libérée qui s'appelle Favi. Son pourquoi, c'est satisfaction client. En gros, tout ce que tu fais, ça doit apporter la satisfaction client. Ça doit faire en sorte que le client se satisfait. Et donc, si tu prends une initiative qui contribue à ça, alors on ne pourra pas te le reprocher. Et d'ailleurs, donc il y a un exemple justement d'un salarié qui a pris une initiative pour la satisfaction client chez Favi, qui est un peu, qui est assez extrême, on va dire, c'est. Enfin, ça paraît extrême quand on vient d'une entreprise comment. Donc, je vous raconte l'histoire. Donc, il était une fois l'entreprise Favi, qui est une entreprise libérée. Et à 19h un soir, un client appelle et indique qu'on était censé venir le chercher à l'aéroport. Comme il n'y avait plus personne dans les locaux, la femme de ménage qui a décroché le téléphone a jugé que. Satisfaction client, la meilleure chose à faire pour satisfaire ce client était d'aller le chercher elle-même. Elle a donc abandonné son ménage pendant 3 heures, a pris un véhicule de l'entreprise, est allée chercher le client, puis est revenue faire son ménage. Et donc en fait, c'est une anecdote qui est vraie. Donc, ça embouche un coin, comme on dit. Voilà un exemple d'initiative qui peut être prise dans une entreprise. Pourquoi? Passons maintenant à une autre particularité du fonctionnement des entreprises. Pourquoi? C'est notamment l'entreprise Gore, qui est aussi une entreprise libérée. Le fondateur, Bill Gore, a en fait décidé de changer les mots qu'on emploie parce qu'il trouvait que les mots qu'on emploie ont un impact sur finalement comment on se perçoit les uns les autres. C'est un impact sur le travail. Et donc, au lieu de parler de salarié, il parle d'associé. Au lieu de parler d'emploi, il parle d'engagement. Et au lieu de parler de manager ou de chef, il parle de leader. Et donc, salarié, associé, manager, leader, ça paraît assez évident. Je vais un peu expliciter emploi-engagement. Quelle est la différence entre les deux? En fait, elle est assez importante quand on réfléchit au sens des mots. Donc, pour faire une petite comparaison, un emploi, c'est donné par un patron, alors qu'un engagement, c'est librement consenti par le salarié. Un emploi, il y a le devoir de réalisation en échange de rémunération, alors que l'engagement, c'est plus une promesse faite à ceux avec qui on va travailler. Un emploi, ça figure sur un organigramme, alors qu'un engagement, on peut passer d'un engagement à un autre de façon plus fluide. Et enfin, avec un emploi, on a ce devoir de réaliser ce qui est indiqué sur la fiche de poste, alors qu'avec l'engagement, notamment chez Gore, enfin les associés, sont encouragés à chercher des engagements qui permettent de faire un meilleur usage de leurs talents, de leurs compétences et de leur expérience. Donc clairement, le fait qu'on ait un engagement et pas un emploi, ça traduit directement la liberté qu'on trouve dans ces entreprises. Pourquoi? Ces entreprises libérées. Un autre point du fonctionnement des entreprises, pourquoi, c'est que en fait, donc ce n'est plus le manager qui décide de la solution, de comment on va faire les choses. En fait, le manager ou n'importe qui a envie d'apporter une solution à un problème va consulter les autres salariés, leur demander leur avis, comment est-ce que eux résoudraient le problème, et ensuite opter pour la meilleure solution qui a émergé. Autre point de fonctionnement, contrairement à l'entreprise comment où on est sur un système hiérarchique, là les salariés sont traités en égaux, c'est un principe d'équité. Et donc en gros les leaders ne s'adressent pas aux salariés comme à des subordonnés, mais les traitent en égaux. Et enfin, dernier point de fonctionnement de l'entreprise, pourquoi? C'est le sceau de crédibilité. Donc en gros, Voilà, il y a un truc souvent qu'on dit quand on entend parler de l'entreprise libérée et de l'entreprise pourquoi. C'est oui, mais du coup, si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, et ben du coup, ça va être l'anarchie, et puis les gens, ils vont s'entretuer, et puis ils vont tout détruire, et ils vont complètement détruire l'entreprise qui leur donne de l'argent pour manger, et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, la réponse à ça, ça s'appelle le sceau de crédibilité. Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise pourquoi? En gros, dans une entreprise pourquoi, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, on n'a pas ce repère de, puisque tu es mon manager, puisque tu as un statut hiérarchique au-dessus du mien, alors je te respecte, et alors c'est toi qui as toute la crédibilité pour dire ce qu'il faut faire. Comme ce n'est pas le cas dans une entreprise, pourquoi? Ce qui se passe, c'est que les gens, chaque personne va gagner en crédibilité au fur et à mesure de son expérience dans la société, et notamment au fur et à mesure qu'elle respecte ses engagements. Donc si une personne s'engage à faire quelque chose et qu'elle le fait, et qu'en plus elle le fait bien, bim, un point de crédibilité. Par contre, si elle s'engage à faire quelque chose et que un jour elle se montre un peu lâche et n'envoie pas le document qu'il fallait au bon moment, enfin je m'empêtre dans un truc là. Bon, en gros, la personne ne respecte pas son engagement. Là, bim, un point en moins dans la crédibilité. Et c'est comme ça que se crée finalement l'influence des personnes. C'est-à-dire que plus le sceau de crédibilité est rempli de petits points de crédibilité, plus tu vas pouvoir, en tant que salarié, donner ton avis. Enfin. Plus on va considérer, plus tu vas pouvoir avoir de l'influence et les gens vont considérer ce que tu dis. Et donc maintenant, pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, pour dire que les entreprises pourquoi sont les gentils et les entreprises comment sont les méchants, trois conséquences positives de l'entreprise pourquoi. Première conséquence, l'adhésion et l'engagement des salariés. En gros, comme les salariés sont consultés, ils adhèrent beaucoup plus aux décisions. Et comme ils adhèrent à ce qui est fait, ils sont engagés et donc plus productifs. Deuxième conséquence positive de l'entreprise, pourquoi? L'innovation. La liberté libère l'esprit d'initiative et laisse de la place pour innover. Donc il y a un exemple chez l'entreprise Gore, c'était un salarié. Donc en gros, l'entreprise Gore. Elle est un spécialiste d'un matériau dont je ne me rappelle plus exactement le nom, qui entoure les câbles électriques. Et les salariés sont libres de faire des tests. Et donc, en gros, il y a un salarié, un jour, qui s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce matériau-là qu'on met autour des câbles pour faire des cordes de guitare? Donc, rien à voir, hein, Gore, câble électrique, cordes de guitare, mais il s'est dit ça. Lui-même, il n'était pas guitariste, donc il est allé voir un collègue qui était guitariste. Il lui a demandé conseil, ils ont un peu travaillé ensemble, et il a fini par proposer, fabriquer ses cordes de guitare. Il les a proposées en échantillon gratuit dans un magazine de guitare, et de cette manière, le produit s'est extrêmement bien vendu, et Gore a pris un tiers des parts de marché de la corde de guitare. Donc, une success story de ouf. Et tout ça parce que le salarié a eu la liberté d'essayer quelque chose, de potentiellement faire une erreur, de partir dans une direction qui peut-être n'allait pas du tout marcher. Ce qui a été le cas d'un autre qui a essayé quelque chose autour du dérailleur de vélo, mais ça n'a pas pris. Enfin, il n'a pas réussi à lancer ça sur le marché. Voilà, mais donc lui, avec les cordes de guitare, a réussi grâce à la liberté qu'il avait d'essayer, d'innover et de faire un peu ce que bon lui semblait. Tant que ça allait dans le sens de la vision de l'entreprise. Et un dernier point, une dernière conséquence positive de l'entreprise, pourquoi? Ce sont les actes héroïques, comme l'histoire de la femme de ménage dont j'ai parlé, c'est-à-dire que en fait, quand les gens réfléchissent à la meilleure solution, parfois ils vont faire des trucs qui paraissent hallucinants, où on se dit, oh, mais moi, j'aurais jamais le droit comme ça de louer, prendre un véhicule et puis partir pendant 3 heures chercher quelqu'un à l'aéroport, je me serais fait taper sur les doigts. Voilà, ben, dans ce genre d'entreprise, il y a des choses un peu hallucinantes comme ça qui se passent parce qu'on a le droit et on ne se fait pas taper dessus si on le fait. Et donc, voilà, on peut être témoin d'actes un peu héroïques comme ça. Voilà pour les entreprises comment et les entreprises pourquoi. Moi, je trouve que En gros, ce qu'on peut noter, c'est que les dirigeants qui ont osé faire les entreprises, pourquoi? Pour moi, ils montrent que quand on propose un environnement de travail différent, enfin, l'environnement de travail de l'entreprise, pourquoi? On obtient des choses différentes des travailleurs. Et moi, je suis personnellement convaincue que l'environnement dans lequel on travaille a une très forte influence sur notre travail. Et d'ailleurs, je pense, enfin, c'est un peu une de mes devises et de mes grandes convictions, je crois que le meilleur environnement, c'est celui qui nous permet d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Donc, bon, moi, je suis un peu biaisée parce que forcément, quand on fait comme ça le comparatif, entreprise comment, les méchants, et entreprise pourquoi, les gentils, je trouve que le contexte de l'entreprise libérée, des entreprises pourquoi, est beaucoup plus favorable à laisser chacun exprimer le meilleur de lui-même et à faire ses propres erreurs et à progresser. Donc, moi, clairement, dans le battle, je mets plus 1 à l'entreprise pourquoi. Après, je voulais souligner un autre truc, c'est que dans le livre Liberté et compagnie, dont j'ai tiré le concept dont on a parlé aujourd'hui, il parle du pourquoi du point de vue de l'entreprise. Donc, en gros, la vision de l'entreprise. Après, d'un point de vue personnel, il y a plein d'autres pourquoi individuels à se poser pour être épanoui au travail. Donc, ça peut être pourquoi est-ce que je travaille pour ce secteur, cette cause-là? Pourquoi est-ce que j'utilise ces outils, ces compétences-là plutôt que d'autres? Pourquoi les valeurs de cette équipe me conviennent, etc. La question pourquoi est vraiment essentielle dans l'épanouissement au travail. C'était juste une petite parenthèse pour finir. Voilà. Donc, merci d'avoir supporté ce premier podcast un peu déluré et un peu n'importe quoi. Je vais continuer et j'espère que vous continuerez à venir partager ces moments audio avec moi. Si tu as aimé ce podcast et que tu n'es pas encore allé sur le blog lesnouveautravailleurs.fr, je t'invite à le faire. Tu trouveras des informations et des conseils pour être épanoui au travail et sur les nouveaux modes de travail, notamment le nomadisme digital, le slash, l'entreprise libérée dont on a un peu parlé aujourd'hui et le remote. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée au travail et ailleurs et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!